Merci, Monsieur le Président. Au nom de ma délégation, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de ce GEG. Nous sommes persuadés que, avec votre aide, nous arriverons à mener à bien les travaux que nous nous sommes fixés pour cette semaine. Nous nous félicitons de la présentation de votre document de réflexion et nous remercions aussi la ISU de son grand travail de préparation. L'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, les Pays-Bas et la Suisse, nous les remercions tous des documents de travail qui ont été présentés et de nous avoir fait part de leurs propositions sur comment avancer pour gérer les salaires à l'avenir. Nous espérons que les progrès que nous avons faits au cours des trois réunions d'experts précédentes, ainsi que les contributions de l'UNODA, de l'UNIDIR, du CICR, de la société civile, nous offrent une base solide pour asseoir notre compréhension de ce sujet complexe et très hautement politique. Monsieur le Président, l'émergence d'un système d'armes sans intervention de contrôle humain n'est plus de la science-fiction au vu des progrès scientifiques et technologiques. De nombreux États parties à la convention, à la CCAC, sont en train de développer des systèmes d'armes avec des niveaux croissants d'autonomie, y compris des armes robotiques semi-autonomes capables de tirer des gaz lacrymogènes, et des balles de caoutchouc et des seringues paralysantes dans les opérations policières. Ceci a des conséquences et c'est un grand changement de la gestion des hostilités. Les développements technologiques pour la guerre, y compris les systèmes d'armes. Les SALA doivent respecter les normes de droit international et respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans l'attaque. C'est la raison pour laquelle il est impératif que le GEG aborde la question déontologique, juridique et technique de ces SALA. Monsieur le Président, la position de mon pays, le Panama, est bien connue. Les systèmes d'armes autonomes létales sont contraires au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme. De ce fait, il devrait être interdit avant d'arriver à être fabriqué. Ça a été le cas avec les armes laser aveuglantes par le biais du protocole 4. Nous pensons que des mesures plus progressives, telles que l'adoption de réglementations limitant son usage ou des codes de bonne conduite, ont des déficiences. Il y a des vides juridiques. De notre point de vue, il est inadmissible que des machines puissent prendre des décisions autonomes en matière de vie et mort de personnes. Le droit international humanitaire établit entre autres que les parties à un conflit doivent faire la distinction entre les combattants et les non-combattants, que les pertes civiles et les dommages à des bâtiments civils ne doivent pas être excessifs et proportionnels à l'intervention militaire prévue, et que toutes les parties doivent prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population civile. Il est évident que ceci demande un niveau de raisonnement humain. Les systèmes autonomes létals n'auraient pas la capacité d'analyser l'intention d'une action humaine. Ils n'auraient pas la capacité de prendre des décisions difficiles sur la proportionnalité ou la nécessité de mener à bien une attaque. Leur façon, leur mode mécanique de fonctionnement de l'intelligence rend ceci impossible et ça aurait un coût humain très lourd. De même, étant donné que ce sont des machines, elles n'auraient ni compassion ni empathie. Ces nouvelles technologies viendraient modifier la nature même de la guerre, mais exacerberaient aussi l'asymétrie de certains conflits armés. De plus, fixer les responsabilités légales et rendre des comptes serait diffus, difficile, voire impossible, étant donné que le droit international humanitaire et le droit pénal international juge des enfreintes commises par des humains et pas par des machines. Ceci générerait une impunité car on n'arriverait pas à déterminer l'autorité qui a pratiqué les attaques. D'autre part, l'histoire nous a montré que d'un jour à l'autre, ces progrès vont donner lieu à d'autres évolutions de haute technologie et les États vont forcément essayer de développer et d'acquérir ces systèmes et favoriseraient ainsi leur prolifération. Il est évident que les débats sur les SALA est une question étroitement liée au désarmement. Nous ne pouvons cependant pas oublier les répercussions qu'ils auraient sur les droits de l'homme, tout particulièrement le droit à la vie et la dignité humaine. Monsieur le Président, avec tout ce que je viens d'énoncer, le Panama pense que le GEG doit adopter les actions suivantes. Il doit examiner les questions déontologiques, juridiques et techniques de ces systèmes. Il doit formuler une définition de travail pour les SALA qui permettent de figer le chemin à suivre. Il doit identifier des éléments nécessaires pour créer un cadre juridique visant à l'interdiction de ces nouvelles technologies d'armes conventionnelles. Car si nous adoptons une attitude passive, nous favoriserons alors le développement de ces systèmes et leur prolifération. Il doit aussi prendre en compte les recommandations formulées par le Conseil des droits de l'homme sur ce sujet, tout particulièrement le rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires. Et il doit enfin souligner l'importance d'examens juridiques des nouveaux types d'armement pour garantir leur compatibilité avec le droit international. Monsieur le Président, c'est la communauté internationale qui a la responsabilité que de trouver les voies pour arriver à un désarmement et à une non-prolifération, et ce, en accord avec la Charte des Nations Unies. Merci.